J'ose pas violer la pureté de ma fonction, je ne fais aucun commentaire, il y aura du temps pour ça. Je reprends ma tâche, on change là de continent. On est en Amérique du Sud, au Brésil, un pays important pour l'anthropologie française, un pays où quelqu'un est allé prendre quelque chose et quelqu'un est allé apporter quelque chose. De ce nouveau monde, dans cet échantillon de jeunesse étudiante que les organisateurs ont invité à ce colloque, j'ai le plaisir de présenter José Octavio Nogueira Guimarães, qui est enseignant maintenant au département d'histoire de l'Université de Brasilia, qui est en train de terminer ses études françaises à l'école sous la direction de François Hartog, qui vient de publier des entretiens avec J.P. Anabase, qui a publié déjà dans son pays. Voilà, à vous, Octavio.
Merci. Merci aux organisateurs de l'invitation. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir participer à ces colloques consacrés à Vernon. Faire le voyage au Brésil, Jean-Pierre Vernon, l'anthropologie de la Grèce antique et les humanités indigènes. Juste après la fin de la Seconde Guerre, après avoir été aspiré par la politique et lancé dans l'action, déjà déçu par les positions que le Parti communiste avait prises durant la résistance, insatisfait du dessein politique que se profilait avec une libération sous le commandement général, et indécis quant au chemin à prendre pour son retour à l'activité académique, Jean-Pierre Vernon reçut une invitation à travailler au Brésil. Il s'agissait de s'immiscer dans la toute jeune université brésilienne afin d'y faire de la recherche et d'y enseigner une anthropologie naissante. Cela ressemblait à l'invitation qu'une décennie auparavant, Georges Dumas et Célestin Bouglé avaient fait à Claude Lévi-Strauss de devenir ethnographe et de donner des cours de sociologie à l'université débutante de São Paulo. Il faut se rappeler qu'il est philosophe de formation et à chaque instant un peu plus psychologue-historien du fait de l'influence de Meyerson, avec lesquels les liens personnels et intellectuels s'étaient resserrés durant les années des guerres passées à Toulouse. Vernon n'avait pas encore choisi la Grèce antique comme champ d'étude. Il se trouva à ce moment-là comme face à un vide académique et existentiel, immourissant ou espérant y décanter ce qui lui permettrait de faire ses choix à venir. Tenté tout de même par le départ vers les tropiques, il rêvait de devenir anthropologue, il finit par décliner de l'offre. Paul Rivet l'en avait dissuadé. Lévi-Strauss, lui, une décennie plus tôt, avait accepté, malgré son horreur de voyage, de partir pour le Nouveau Monde, où il s'installa pour quelques années pour devenir le plus influent ethnologue français de la deuxième moitié du XXe siècle. Il accomplissait en cela un rituel d'initiation au travail de terrain outre-mer, étape à l'époque indispensable à ceux qui prétendaient faire profession de la nouvelle discipline. Qui ne connaît le passage des tristes tropiques où, en 1935, au beau milieu de l'Atlantique, à bord du bateau qui les menait au Brésil, l'auteur médite sur ses voyages, cherchant à se démarquer de ses prédécesseurs. Les navigateurs des anciens siècles, écrit Lévi-Strauss, en parcourant des espaces vierges, était moins occupé de découvrir un nouveau monde que de vérifier le passé de l'ancien. Adam, Ulysse, leur était confirmé. Lévi-Strauss n'avait pas aimé répéter ses vieux voyageurs. Il n'aurait pas non plus apprécié que l'ethnologie, dans les résultats de ses observations de terrain, ne devienne une version renouvelée de la fameuse prière sur l'acropole de Rhénan. Mieux qu'Athènes, lisons-nous à la suite de mêmes tristes tropiques, les ponts d'un bateau en route vers l'Amérique offrent à l'homme moderne une acropole pour sa prière. nous te la refuserons désormais, anémique déesse, institutrice d'une civilisation claquémurée. Commentant ces passages, François Hartog a montré que les jeunes ethnologues espéraient que son entreprise intellectuelle puisse justement constituer une anti-prière sur l'acropole. C'en est fini du voyage à Athènes et le miracle grec a bien perdu de sa force et de son éclat, écrit Hartog dans l'introduction de son ancien moderne sauvage de 2005. Ainsi, Lévi-Strauss, faisant le choix de l'Amérique et du sauvage, plutôt que de la vieille Athènes et de sa tradition humaniste ethnocentrée, prépara d'une certaine manière le terrain pour que Vernon, renonçant à son voyage au Brésil, en vienne à opter intellectuellement pour le monde grec ancien. Si Vernon ne s'est pas fait anthropologue par les biais des sauvages, sa démarche présuppose un regard éloigné, héritage de cette tradition ethnologique s'alimentant des acquis théoriques de la recherche de la différence. Pour ne prendre qu'un exemple, lors d'une conférence en 1966, reconnaissant la présence croissante d'altérité dans la culture européenne, Vernon relativisa les prétentions universalisantes et achroniques de sa tradition intellectuelle, ce qui l'amena à revoir aussi l'efficacité des outils marxistes d'analyse historique avec lesquels il s'était en partie formé. Je les cite, c'est une conférence morale, histoire et société qui a été reprise après dans Religion, histoire, raison. Donc Vernon. Nous nous trouvons en effet confrontés et associés à des humanités qui sont sur tous les plans autres que nous, autres par leur religion, leur système de valeurs, leur niveau technique, autres par leur forme de vie sociale et d'existence personnelle. Vivant chaque jour davantage en communauté avec des hommes, même s'ils connaissent encore la faim, quand nous sommes déjà dans une relative abondance, nous sommes, sous leur regard, inclinés à nous voir nous-mêmes avec leurs yeux. Ainsi s'y trouvent mis en question certains des traits qui nous pensions consubstantiels à la nature humaine. Et il ajouta tout de suite, le marxisme aussi doit s'interroger dans quelle mesure une théorie scientifique issue d'une réflexion sur les sociétés industrielles d'Occident peut-elle s'appliquer directement à des civilisations d'un autre type ? Dans quelle mesure les faits économiques, les rapports sociaux jouaient-ils encore de la même façon dans des ensembles sociaux autrement organisés ? Bref, l'Athènes de Vernon, après le voyage de Lévi-Strauss, nous le savons, n'est certainement déjà plus celle de Vernon. En ce sens, il est assez curieux que cette même année, 1935, où Lévi-Strauss voguait en direction du Nouveau Monde, Vernon, lui, faisait voile sur une embarcation bien plus petite, non sur l'Atlantique, mais sur la Méditerranée, précisément en direction du Vieux Monde. Le petit esquif partait du Caire pour jeter l'ancre au Pirée, port d'Athènes. Nous connaissons tous l'histoire de ce voyage, Vernon l'a raconté d'innombrables fois. Lui, son frère Jacques et deux autres copains parcoururent la Grèce à pied. Quatre jeunes gaillards en culotte courte et sac à dos, écrit Vernon. Il s'agissait encore, bien heureusement, pour eux, d'une Grèce précédant le régime des colonels et l'agressive industrie touristique. Nous étions, se souvient Vernon, accueillis par des paysans. Recevoir l'autre étranger pour ces paysans, plus qu'un devoir, apparaissait comme une chance, une faveur divine à ne pas laisser passer. Une fois de plus, rien qui ressemble à l'acropole athénienne de la prière, la faveur divine à travers laquelle les paysans grecs exerçaient l'hospitalité s'y distingue significativement du culte moderne, philologique et esthétique, à la anémique déesse institutrice d'une civilisation claquémurée, culte auquel une bourgeoisie de parvenus s'est vouée. Les voyages à Athènes de Vernon ne fut pas celui des archéologues et des classicistes se formant sur le modèle du réalisme épistémologique de la science dans l'Antiquité allemande. Il n'était pas moins, comme on le sait, une étape réalisée avec un retard extrême du fameux grand tour par lequel l'élite aristocratique européenne, à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, éduquait ces jeunes humanistes. Vernon est dans ce sens très explicite. Ce qui l'enchanta fut en premier lieu certains caractères naturels de la Méditerranée, des légers en particulier. Les odeurs, la couleur du ciel, l'éclat du ciel grec, il écrit. Vous voyez les impressions qu'il garda du Pirée, la station initiale. Je cite Vernon, c'était la découverte d'un petit port oriental, incroyablement vivant, coloré, plein d'odeurs, sans voiture, des ânes, des carrioles, aucune maison sur les collines alentour. Il s'agissait d'une Grèce physique, sentimentale et pleine de chaleur humaine, qui ne s'était pas alors constituée en objet intellectuel. Les vieilles pierres et tout ça, écrit Vernon, ça ne m'intéressait pas. Ce que je voulais voir, c'était le peuple grec, l'homme grec. Cet homme grec, Vernon le retrouvera quelques années plus tard, transformé en sujet de recherche. Si en demi-siècle après, Vernon a admis que le voyage en Grèce ait pu avoir joué à la fin des années 40, sans qu'il ne se rende vraiment compte, un certain rôle dans son choix de l'hellénisme comme domaine de recherche, cette aventure juvénile ne fut pas le principal motif à valoir dans sa prise de décision. Au-delà de ses premières lectures de Platon, qu'il avait enchanté, mais qu'il avait envisagé méthodologiquement du point de vue d'une histoire de la philosophie traditionnelle, selon une problématique de forte inspiration marxiste, et au-delà de son effort pour fuir l'emprise intellectuelle du Parti communiste, ce que le conduisit fondamentalement à choisir scientifiquement la Grèce antique fut la rencontre en 1948 avec Louis Jernet, tout juste arrivé à Paris après des années d'exil algérien. Ce fut les coups de foudre, écrit Vernon, Jernet a tout changé dans ma façon de voir. Jernet, il n'a pas de raison de s'attarder plus longuement sur les sujets, au-delà de son savoir exceptionnel, au-delà de son ouverture d'esprit, au-delà de son refus de l'érudition vide, sèche et dilettante du classicisme traditionnel, représenta une révolution méthodologique capable d'actualiser, selon Vernon, l'idée d'humanisme. Il a symbolisé avant tout l'application aux matériaux documentaires grecs de l'appareil conceptuel des sciences sociales françaises. Pour résumer, nous dirions que la rencontre Jernet-Vernon représenta dans les domaines particuliers des études grecques la possibilité de survie dans la deuxième moitié du XXe siècle d'une anthropologie historique du champ symbolique, malmenée jusque-là, qui, outre Jernet, comptait aussi dans la première moitié du siècle Marcel Mauss, Marc Bloch, Marcel Grenet. Ce fut sous l'orientation de cette perspective que Vernon mit 10 ans à se faire helléniste, dans le même temps qu'il assurait le secrétariat du journal de psychologie, revue véritable carrefour des sciences humaines françaises, comme l'a dit Riccardo Di Donato. Il nous faut enfin souligner, avant de passer au paysage brésilien, que l'anthropologie vernancienne, en ne se construisant pas à partir du sauvage comme objet premier, mais en se penchant sur la Grèce antique, a contribué d'une certaine manière au mouvement d'élargissement de l'objet ethnologique. Cet objet s'est progressivement détaché de sa réduction à l'exotique, à l'outre-mer, pour intégrer ce que l'on peut appeler de manière générique les formes variées de la différence. On a alors découvert que c'était l'approche et non l'objet proprement dit qui définissait la perspective anthropologique. On pourrait dire que Vernon a ainsi contribué indirectement au développement de ce que les historiens anglo-saxon de l'anthropologie appellerait dans les jargons de cette communauté de spécialistes la recherche at home. En fait, dans le milieu intellectuel des métropoles, l'expression, il n'y a pas si longtemps, apparaissait comme un paradoxe, comme une contradiction dans les termes. Mais le passage de Vernon cité plus haut, extrait de la conférence de 66, était déjà symptomatique de la diminution accélérée de la distance entre ethnologues et ses considérés un moment comme ses informateurs. L'helléniste n'eut pas besoin d'entendre Clifford Geertz proclamé en 1983 « Nous sommes tous des indigènes » pour s'élancer dans son anthropologie historique de la Grèce ancienne qui, elle, pourrait bien rentrer dans ce que Michel Foucault appelait une ethnologie interne de la culture occidentale. En 1939, un anthropologue de l'envergure de Malinowski disait déjà, préfaçant le livre d'un de ses disciples d'origine chinoise, résolu à étudier les paysans de son pays, que, je cite Malinowski, une anthropologie de son propre peuple était une conquête plus ardue, mais plus précieuse. À la fin de sa vie, principalement dans son dernier travail, La traversée des frontières, Vernon a été encore plus loin en devenant anthropologue historien de lui-même, de son engagement comme acteur historique et de son travail d'helléniste. Je le cite, dans la mesure où j'ai cessé d'être un acteur de l'histoire, et puisque je suis devenu un anthropologue de la Grèce antique, mon regard a changé. Si j'étais simplement entré dans la résistance sans faire ensuite d'études sur la Grèce, je ne verrais pas dans mon rôle, mon action, mon engagement résistant ce que j'y vois en tant qu'historien maintenant que je réfléchis sur ce que les Grecs eux-mêmes racontaient dans l'Iliade. Cette dimension réflexive, conquête du discours des sciences sociales des dernières décennies, est un des éléments fondamentaux, sinon les principaux, expliquant l'accueil de Vernon dans le contexte plus ample des sciences humaines au Brésil. Quand Vernon finalement accepta, à partir de 1972, les invitations pour le Brésil, il avait déjà gagné les statuts consolidé d'anthropologue de la Grèce. Il avait déjà publié en France trois de ses livres appelés à renouveler l'hellénisme international, les origines de la pensée grecque, mythe et pensée chez les Grecs, et mythe et tragédie en Grèce ancienne avec Vidal Naquet. Ces trois œuvres sont en fait parues en portugais du Brésil durant la même décennie 70. Ce sera par l'intermédiaire de Marilena Chaui, un des plus importants philosophes brésiliens, qui Vernon donnera ses premiers cours et ses premières conférences sur la tragédie grecque et sur le mythe de Prométhée chez Hésiode à la faculté des philosophies, des lettres et des sciences humaines de l'Université de São Paulo en 1972. Parmi les auditeurs de ces cours, s'il ne faut citer qu'un seul nom, c'est celui d'un héros de la consolidation des sciences sociales au Brésil, Antônio Cândido. Cinq années plus tard, il y eut une deuxième cour à l'Université de São Paulo, tournant autour du thème de la belle mort dans le monde grec archaïque, à l'invitation cette fois de l'anthropologue Manuela Carneiro da Cunha. Il nous faut remarquer lors de ce deuxième passage, en 1977, la publication d'une longue interview de Vernon par quatre jeunes philosophes de São Paulo, Renato Janini Ribeiro, Léon Konsovitch, Walter Zingerevitz et Lígia Araújo Watanabe, qui a fait son doctorat avec Vernon, dont la question principale était l'actualité de l'hellénisme. Vernon y insiste sur la critique de la Grèce universelle de l'hellénisme littéraire. Il y réaffirme la nécessité du rapprochement entre les études classiques et les nouvelles disciplines des sciences humaines, en particulier avec la psychologie, la sociologie, l'anthropologie. Il y invite, par le moyen d'un travail comparatif, à prendre l'expérience culturelle grecque comme une des voies dans laquelle les hommes s'engagèrent. Une humanité qui a pris une direction particulière. Au Brésil, les domaines des études universitaires sur l'Antiquité grecque dans ces années 80-70 est encore, somme toute, assez fragile et tâtonnante. Et les premières thèses de doctorat écrites sur le monde grec ancien commencent à être soutenues. Les classicistes brésiliens sont en train de passer du simple état d'enseignant à celui de chercheur. Qui plus est, les domaines n'est pas unifié, les spécialistes se trouvent dispersés entre leurs départements respectifs, histoire, philosophie, anthropologie, sociologie et lettres. Ils s'y concentrent à l'Université de São Paulo, avec d'autres pôles dans les universités fédérales de Brasilia, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Cela explique en partie pourquoi, dans un premier temps, les principaux responsables de la diffusion de Vernon au Brésil n'ont pas été les classicistes. Vernon, l'helléniste, intéresse pour des aspects plus généraux liés aux questions méthodologiques et philosophiques de son travail. J'en cite quatre. La manière de conjuguer dans le traitement du monde grec ancien les actions réciproques du social et du mythique, les procédures d'analyse qui sans déterminisme font l'aller-retour permanent entre texte et contexte, l'importance attribuée au niveau politique et au niveau religieux à une époque où l'économico-social est fortement privilégié au Brésil, une exploration des thèmes chers à la philosophie des années 60 et 70, tels que la relation entre mythe et raison, la nature des notions d'imitation et d'image, ou encore de l'historicisation de la catégorie de personnes. Ajouter de manière non négligeable à cette réception élargie des Vernon, une véritable frénésie intellectuelle éveillée par l'œuvre de Michel Foucault. Au Brésil, le philosophe qui entre 65 et 75 avait visité au moins 5 fois le pays soulignait fréquemment l'importance des travaux de son collègue helléniste. Ario, par exemple, en 74, essayant de préciser sa notion des discours, Foucault fit appel à Vernon. Il chercha, Foucault, à s'éloigner aussi bien de la perspective de la philosophie analytique anglo-saxonne que du modèle structuraliste dur qui, selon lui, conférait un privilège absolu au mythe pris comme production uniquement verbale. Vernon, au contraire, selon Foucault, pense que les rapports structuraux peuvent, je cite Foucault, intervenir aussi bien dans un discours que dans un rituel religieux ou dans une pratique sociale. Ainsi, loin d'identifier ou d'y projeter toutes les structures sociales, les pratiques sociales, les rites dans un univers du discours, il replace au fond la pratique du discours à l'intérieur des pratiques sociales. Fin de citation de Foucault. Ça a été publié sous le titre « La vérité et les formes juridiques ». C'est fut par cette voie que psychologues, anthropologues, érudits de la littérature et surtout philosophes ont pris les analyses vernantiennes du mythe hésiodique ou de la tragédie grecque comme des hétérodoxies structuralistes. Se sont suivis deux autres voyages durant la décennie 80, accompagnés également par la traduction d'une bonne partie de ses livres. Vernon n'a pas seulement connu São Paulo, on l'a entendu à Brasilia, à Rio, à Porto Alegre, à Belo Horizonte. À son dernier voyage, il connut l'Amazonie et visita le site préhistorique de la Serra da Capivara, no Piauí. Un dernier aspect paraît avoir collaboré grandement à ce que les travaux de Vernon circulent en dehors des murs du territoire helléniste. Sa prose limpide et facile est presque une conversation, note le professeur Bignotto, un spécialiste en sciences politiques. Le témoignage d'un journaliste rédacteur en chef du supplément culturel de l'Estado de São Paulo, un des principaux journaux brésiliens, en ayant fréquenté l'Université de São Paulo durant les années 70, est en ce sens exemplaire. Je le cite. Le journaliste, je n'ai pas connu Vernon personnellement, mais au travers de ses livres, son nom était populaire à la faculté. Nous faisions référence à lui avec cette familiarité toute brésilienne. Tu as lu ce que Vernon a écrit ? t'as vu ce qu'il a dit sur telle chose, comme s'il s'agissait d'un ami qui nous côtoyons au bistrot du coin. » Fin de citation. Il ne faut pourtant pas sous-estimer les effets des ouvrages d'Hivernon sur le milieu marginal des classicistes brésiliens. Ces ouvrages ont bien sûr trouvé des résistances similaires quelquefois à celles que l'on peut observer dans le vieux monde, mais elles ont surtout laissé dans la République des lettres du Nouveau Monde sud-américain des empreintes claires qui renvoient à un aspect central de sa démarche anthropologique. Si, en Europe, faire de l'anthropologie de la Grèce a contribué à établir une distance avec les anciens, dans un contexte où leur présence était évidente, au Brésil, par contre, où ni les Grecs ni les Romains n'étaient naturellement indigènes, les classicistes ont dû, au préalable, s'interroger sur les raisons pour lesquelles ils devaient ou non nourrir des rapports avec eux. En d'autres termes, les Brésiliens ont été amenés à construire avec ces anciens des relations pertinentes afin de les utiliser comme référence ou tout simplement de les étudier. Un travail d'anthropologie historique sur la religion grecque ou sur la tragédie athénienne a un rapport avec le présent, non pas par une homologie possible des situations, mais parce qu'il peut amener le lecteur à se approprier des instruments critiques qui peuvent être utiles pour l'étude de sa propre société. C'est cette démarche critique et réflexive qui me paraît avoir été la contribution majeure de l'œuvre d'Hivernon aux sciences humaines brésiliennes. Merci.